Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Bonjour professeur Yves Pouliquen. Alors nous sommes 6 milliards dans le monde et pourtant nous sommes parmi ces 6 milliards d'êtres humains, près de 45 millions d'aveugles et près de 135 millions de malvoyants. On estime qu'un adulte devient aveugle toutes les 5 secondes je crois et plus des 2/3 des cas de cécité pourraient être évités ou sont encore guérissables par un traitement. Seulement ce traitement, suivant si l'on fait partie des pays industrialisés ou non, on y a accès plus ou moins. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de cela avec vous, professeur Yves Pouliquen. Notre éclairage est consacré aux maladies ophtalmologiques et nous allons parler en particulier de votre organisation pour la prévention de la cécité, l'OPC, qui a été créée en 1978. Alors Yves Pouliquen, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez déjà commenter ces quelques chiffres? 45
oui,
millions d'aveugles,
vrai.
135 millions de malvoyants.
C'est vrai. Et vous avez dit un aveugle toutes les
5 secondes.
Et il y a un enfant aveugle toutes les minutes à peu près. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que ces troubles visuels surviennent dans les pays très peu développés, bien sûr les moins riches, et qu'aussi 75 à 80% de ces cécités pourraient être évitées avec des mesures de prévention, des mesures d'hygiène et aussi des médicaments. Donc il y a un énorme défi à nos sociétés.
Alors est-ce que ce chiffre est en augmentation? Le nombre de malvoyants ou d'aveugles?
Il n'est peut-être pas en augmentation par rapport à ces chiffres-là qui se sont un peu contractés entre l'avant-dernière évaluation de l'OMS et la dernière évaluation qui remonte, je crois, à un an. Encore faut-il peut-être mettre cela plus sur le compte d'un affinement des méthodes comptables que d'un véritable effet de notre prévention. Ce qui aussi doit être pris en compte, c'est que la population mondiale vieillit, même dans les pays qui sont peu développés, la longévité augmente. Et donc s'ajoute à ces cas toute la pathologie des gens âgés, et qui a tendance à augmenter régulièrement le nombre de cataractes, le nombre de cécités.
Oui, voilà. Le nombre de dégénérescences maculaires.
Oui, exactement. Donc, en plus, je pense que dans les pays développés, l'incidence du diabète, qui grandit, et qui même touche les pays les moins riches, va créer un grand nombre de troubles visuels, donc de cécité.
Alors justement, donc nous allons parler des pays développés et pour prendre un exemple, on va peut-être tout simplement partir sur la France. Alors sur les chiffres que nous pouvons avoir en France, on estime qu'il y a environ 1 500 000 personnes qui présentent une déficience visuelle et on estime à 60 000 le nombre d'aveugles en France.
Oui,
est-ce que c'est beaucoup?
Oui, on a eu du mal à dénombrer le nombre d'aveugles. C'est un long travail d'épidémiologie. Je pense que c'est assez vrai. 60 000 aveugles, c'est assez correct. Le 1 500 000 de gens qui présentent une affection oculaire grave, en tout cas qui peut entraîner la cécité, est probablement réel. C'est un bon chiffre. Et ça dépend de essentiellement trois maladies qui constituent un défi, puisque nous bénéficions tout de même de progrès techniques tels que nous éradiquons pratiquement toutes les causes de cécité. Mais il y a tout de même trois problèmes majeurs qui se posent à la France, et qui, des problèmes qui ne sont pas tout à fait appréhendés, hein, de façon à ce qu'ils soient très bien conduits. C'est ceux qui concernent le diabète, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Alors justement, nous allons pouvoir parler des trois.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge, hélas, les traitements sont très peu actifs, ce sont des combats d'arrière-garde.
Alors qu'est-ce que la dégénérescence maculaire?
Alors, la dégénérescence maculaire, c'est une maladie de la macula. La macula est dans le centre de la rétine, c'est elle qui est responsable de la vision de lecture, de la reconnaissance des visages, de la vision des couleurs. C'est une zone très petite sur la rétine, qui est essentiellement composée de cônes, et c'est une zone qui se révèle avec la longévité plus fragile que la rétine périphérique composée essentiellement de bâtonnets. Il faut dire que c'est un luxe, la macula.
Est-ce qu'elle touche les personnes âgées de plus de 65 ans?
Oui, je dirais que c'est un luxe dans les espèces vivantes, car des systèmes analogues n'existent en réalité que chez les primates. Certes, les oiseaux ont aussi une bonne vision centrale, mais c'est les primates, c'est-à-dire les singes et l'homme qui bénéficient de cette région exquise qui permet d'identifier, de reconnaître avec beaucoup de précision ce qu'ils regardent. Les animaux, en général, n'ont pas de macula. Mais par contre, ils ont d'autres sens plus développés, celle du mouvement, du contraste, etc. Mais la macula, qui est donc, disons, quasiment spécifique de l'homme, vieillit mal. Et probablement, il y a là comme un petit défaut d'entretien de la macula d'origine génétique, ou une espèce d'interruption de certaines fonctions qui conduisent à la dégénérescence de la macula. C'est un nombre important dès l'âge de 70 ans, enfin quelques pourcents, qui augmente après 80 ans, qui s'affirme encore à 90 ans, et qui, chez les personnes qui sont quasiment centenaires, il y a toujours au moins une maculopathie sénile, qui n'est pas une dégénérescence, mais il y a au moins des modifications séniles de la macula qui, dans les formes les plus graves, sont une véritable dégénérescence. Et une dégénérescence contre laquelle on n'a que des combats d'arrière-garde, hein, avec diverses méthodes physiques, mais qui ne font que limiter les choses.
On ralentit.
Faire la part du feu, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on sacrifie une partie des fonctions pour en conserver une toute petite. Mais ça conduit non pas à la cécité, ça conduit à une cécité de lecture. Mais ça ne conduit pas à la cécité. L'immense majorité des cas conservent une autonomie. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller soi-même, enfin, marcher même, mais c'est tout de même un handicap extrêmement important chez des gens chez lesquels la locomotion est moins bonne, chez lesquels la surdité s'installe, d'autres fonctions avec le vieillissement disparaissent. Donc ce sont des gens dont il faut prendre la charge. Alors la charge thérapeutique, je vous l'ai dit, elle est malheureusement très défaillante, la prise en charge. Par contre, la charge rééducative peut être prise en charge.
On peut rééduquer.
Voilà, on peut accueillir dans des centres de rééducation ces personnes auxquelles on réapprend à utiliser les restes de vision qu'ils ont. Et aussi, on leur donne toute une méthode basée sur des éléments pratiques. Ainsi, de prendre des couverts différents en fonction de ce que l'on mange. Ainsi, ne pas mettre des pâtes dans des assiettes blanches, mais mettre des pâtes dans des assiettes rouges.
On essaie de ruser, le problème.
Et en plus, d'arriver à retrouver une toute petite part de lecture avec des instruments grossissants, etc., etc. C'est toute une prise en charge qui est très tardive en France.
Ce sont des centres qui sont récents?
Ce sont des centres dans des pays comme la Suède, par exemple. Il y en a déjà, qui est un tout petit pays, relativement à la population, non pas à ses qualités, mais à sa population, il y a déjà au moins une trentaine de centres, alors qu'en France, il n'y en avait pratiquement pas. L'une des tâches de l'Organisation pour la prévention de la cécité a été, je dirais, d'alerter les pouvoirs publics et de se mettre à contribution elle-même pour équiper des centres. Et actuellement, en France, je pense qu'on a de très nombreux centres, mais qui sont de performance très inégale. En tout cas, on peut dire que nous avons équipé une quinzaine de centres d'un appareillage qui permet d'augmenter les performances de ces centres et qui, en général, accueille des patients qui se trouvent heureux d'une rééducation qui dure quelques jours, quelques semaines et qui leur apprend en quelque sorte les éléments de sauvetage.
C'est une rééducation ponctuelle.
Oui. Et ça aussi, une charge psychologique très importante, car lorsqu'on ne peut plus rien faire, qu'on est ophtalmologiste comme moi-même, et qu'on assiste à la fin de l'évolution de cette dégénérescence maculaire, c'est-à-dire ce désastre visuel en matière de lecture, l'ophtalmologiste a tendance à dire « Chère madame, je ne peux plus grand-chose pour vous ». Et là, il y a une sorte de choc, surtout que ça survient en deux temps. En général, un œil est atteint, bon, on l'accepte, puis le deuxième, quelques années plus tard, c'est vraiment le grand désespoir. Et quand on voit que les ophtalmologistes ne peuvent plus rien, ce désespoir s'accroît. Et il est bon de diriger ces patients vers un centre qui apporte cette compassion et cette aide technique qui permet à ces gens de retrouver une personnalité, de se dire « je vais quand même m'en sortir » et de remonter la pente.
Oui, et voilà. Puis de montrer que on les regarde encore.
Voilà. Alors ça, c'est un des travaux de l'OPC en France. Le deuxième, c'est que nous le faisons avec Valentin Houy, avec la Fondation. Nous avons fait une convention entre nous pour équiper beaucoup de centres. Enfin, on va faire, je crois, une douzaine de centres, sinon une quinzaine en France cette année,
oui,
de dépistage, un fond d'œil automatique de tous les gens pour détecter le diabète.
Le diabète.
Oui, c'est-à-dire qu'on va faire systématisation d'un fond d'œil. Ça ne demande très peu de choses, même pas de dilater les pupilles. On les met devant un appareil qui prend le fond d'œil. Ce fond d'œil une image numérique est transmise en un centre où un médecin voit tous les clichés, dit tiens, le numéro 20, attention, il faut le voir parce qu'il a quelques défauts. Donc on va faire un dépistage très grande échelle, et ça on le fait avec des équipes de médecins, en particulier l'une de mes élèves, le professeur Massin, qui est de la Riboisière, et nous mettons avec elle en place tout un réseau sur le territoire français. Nous espérons en quelques années dépister le diabète. En deux chiffres, vous allez comprendre, un diabète sur deux ignore qu'il est diabétique.
Oui, c'est
et
souvent.
Un diabétique sur deux n'a jamais vu un ophtalmologiste. Or, l'une des complications du diabète, c'est la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire la complication qui est génératrice de cécité. Voilà. Et le dernier point,
c'est le glaucome.
Le glaucome, où c'est un petit peu la même chose. Il y a le développement d'un tel réseau avec les spécialistes du glaucome, docteur Baudouin, docteur Nordman, et qui vont par le même système ou des systèmes d'approche identiques. Le Lions Club participe aussi à cette campagne. On devrait dépister des glaucomes parce que le glaucome est totalement muet. On peut être atteint de glaucome sans le savoir.
Alors on peut peut-être préciser ce qu'est le glaucome.
Alors le glaucome, c'est une augmentation de la tension du liquide qui irrigue l'intérieur de l'œil. Il y a des petits organes qui sécrètent l'humeur aqueuse, ça s'appelle, c'est de l'eau en quelque sorte, et il y a un circuit de cette humeur qui part par ce qu'on appelle un angle iridocornéen, où cette humeur est extraite de l'œil. Entre les deux, sécrétion, excrétion, il y a un équilibre. Cet équilibre donne une tension voisine de 12-14 mm chez les patients, millimètres de mercure. Chez les glaucomateux, ça augmente considérablement. Et à ce moment-là, il s'y associe un certain nombre de dégradations du nerf optique, du champ visuel, etc. D'ailleurs, c'est une maladie complexe parce que la tension n'est qu'un signe. Il y a des glaucomes qui n'ont pas de tension. Il y a des tensions qui n'ont pas de glaucome. C'est un ensemble de symptômes. Aussi, l'examen du fond d'œil systématique, un peu comme dans le diabète, permet d'examiner le nerf optique et juger si ce nerf optique souffre. Et regardez sur des images numériques, tiens, le numéro 45, il a un nerf optique qui est très suspect. Avez-vous mesuré votre tension? Alors je dirais là seulement une chose, c'est que si tous nos amis français n'achetaient pas des lunettes loupes n'importe où, et quand je dis n'importe où, c'est pas du tout méprisant, mais n'importe où, en dehors d'un examen médical, c'est-à-dire n'achète des plus 2, plus 1, etc., chez le marchand.
S'ils prenaient le temps d'aller voir un ophtalmo.
Voilà, lorsque la presbytie s'installe, ils auraient vis-à-vis d'eux-mêmes un respect de leur santé. Parce que cet examen qui survient à 45, 48, 50 ans permet d'abord de mesurer l'acuité visuelle, ce qui est une chose intéressante, mais surtout de faire un examen de l'œil. Et l'ophtalmologie, l'œil, c'est une fenêtre ouverte sur le cerveau, sur le système vasculaire. On voit plein de choses. On peut découvrir un diabète, on peut découvrir un glaucome, on peut découvrir une hypertension artérielle, on peut découvrir plein de choses. Et cette étape de la cinquantaine est absolument nécessaire. Je pense qu'il n'y a aucune raison de négliger cet examen qui est essentiel pour dépister justement ces maladies qui surviennent à la cinquantaine et qui peuvent, lorsqu'elles sont prises à temps, ne pas avoir les conséquences que l'on craint.
Vous pensez qu'en fait, les Français ne vont pas assez souvent chez l'ophtalmo?
Non, les Français ont des bonnes habitudes, mais je pense que certains Français sont trop négligents.
Alors, professeur Yves Pouliquen, nous allons parler peut-être plus en détail maintenant de l'OPC, de cette organisation pour la prévention de la cécité.
Alors,
est-ce
oui.
que c'est vous qui êtes l'instigateur?
Non. L'OPC, d'ailleurs, prend en charge tout ce dont je vous ai dit déjà. Mais ça,
voilà.
C'est son programme français.
Oui.
Bon. L'OPC a été créé par M. Monnier, qui était président du directoire de la Banque Neuflize dans les années 78, je crois.
Oui.
Moi, je suis arrivé à l'OPC en 97. J'ai d'abord été chef de service à l'Hôtel Dieu et directeur de l'enseignement de l'ophtalmologie, donc ce n'était pas du tout mon occupation. Je soignais quotidiennement des malades, j'enseignais, etc. Mais mes amis, ceux qui m'ont précédé à l'OPC, ont pensé que j'étais peut-être susceptible de prendre leur relève. Ce que j'ai accepté, en ignorant, je dois l'avouer, beaucoup de ce qu'était l'éventail des actions que faisait l'OPC.
Oui.
Elle faisait des actions déjà en France. Elle avait pour tradition de travailler en Afrique. Et elle avait donc aidé l'IOTA, qui est l'Institut d'Ophtalmologie Tropicale Africaine. Elle avait développé des campagnes de traitement de cataractes, de trachomes, etc.
Nous en parlerons.
Elle faisait des soins oculaires, si vous voulez, un petit peu partout en Afrique. Et je l'ai ralliée alors qu'elle avait établi des conventions avec le ministère de la Coopération, qui avait pris en charge le traitement de l'oncocercose. Et sur les territoires africains, je rappelle que l'OPC a des relations avec 14 pays africains.
Voilà, on en parlera un peu plus tard.
Oui. Mais l'un de ses problèmes majeurs était l'oncocercose. L'oncocercose ou cécité des rivières.
C'est la cécité des rivières.
C'est une entreprise d'inspiration française, il faut bien le dire, qu'on avait créé ce qu'on appelait l'APOC. C'était une association qui était destinée à traiter l'oncocercose. En association avec l'OMS, avec des tas d'ONG qui sont différentes. Mais la part qu'a prise alors l'OPC est une part intéressante. Nous avons donc commencé, dans certains pays africains, en particulier au Mali, à s'occuper de cette maladie, la cécité des rivières.
Alors,
c'est une maladie parasitaire.
Voilà.
Hein, 125 millions de gens dans le monde, mais essentiellement des Africains, sont intéressés par cette maladie. On peut dire que 18 millions en sont atteints, et il y a déjà presque 400 000 qui en sont aveugles. C'est une maladie parasitaire qui est transmise par une petite mouche, la simulie, qui injecte sous la peau, alors que la femelle a besoin de sang pour faire ses œufs, pour se nourrir et alimenter ses pontes, elle injecte en même temps qu'elle prend du sang des larves, lesquelles larves deviennent des femelles adultes qui s'accumulent sous la peau, mais par des injections répétées.
Oui. Hein,
ça ne se fait pas en un jour, ça se fait par accumulation de piqûres. Et à ce moment-là, se créent des nodules dans lesquels ces femelles, pendant plusieurs années, vont pondre des microfilaires, c'est-à-dire des tout petits vers, tout petits, des 300 microns. Et ces microfilaires vont se répandre dans tout l'organisme. Alors ça va faire des nodules sur la peau, et à partir de ces nodules, ça va partir dans tout l'organisme. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces petits micro-vers, en quelque sorte, quand ils sont vivants, ne donnent pas tellement de dégâts, mais quand ils meurent dans les organes, à ce moment-là, commencent des destructions qui sont très préjudiciables. Alors, sous la peau, la manifestation, c'est des nodules avec des démangeaisons terribles.
Et la démangeaison est apparente. Donc une dépigmentation.
Oui, bien sûr. Et puis, dans les organes, et en particulier dans l'œil, ça touche la cornée, l'iris, la choroïde, le nerf optique, etc. Ça donne des lésions qui sont responsables de cécité.
Donc ça s'installe partout.
Ah oui, oui. Et donc le drame, c'est que ça se développe auprès des rivières, dans des zones très fertiles, et que nous avions des cycles dans le passé où, lorsque la proportion d'aveugles qui était de 20% dans un village, les villages se déshabitaient, se désertifiaient.
Oui.
Et il n'y a que lorsqu'on guérit ces gens, qu'on supprime en quelque sorte cette maladie, que ces zones fertiles sont réhabitées. Alors il y avait des cycles de réhabilitation, de désertification, de réhabilitation. Bon, alors ce qui a été tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a trouvé un médicament.
Qui s'appelle l'ivermectine.
Et que ce médicament, deuxième chose extraordinaire, qu'on ne cessera jamais assez de souligner, c'est que les laboratoires Merck & Co. l'ont donné à l'humanité et offrent chaque année des centaines de millions de dollars.
Parce qu'un laboratoire, pendant 10 ans...
Il l'a donné à vie. C'est un exemple qui est quasiment unique. Mm-hmm. Car ça coûte une fortune.
Bien sûr.
Et cette fortune, les laboratoires Merck, qui sont de grands laboratoires, mais qui ont aussi leur drame, le Vioxx, etc. Vous connaissez toutes ces difficultés. Bon, mais cet laboratoire a décidé de donner faire don à l'humanité. Donc, ce qui est tout à fait extraordinaire, car ça nous est donné gratuitement. Et on a découvert qu'en fonction du poids, c'était 1, 2 ou 3 comprimés qu'il fallait donner par an, pendant 10-15 ans consécutifs, pour améliorer considérablement la situation. Ce qui est fait, puisque ça fait déjà plusieurs années que nous distribuons toutes les ONG à tous ces gens qui sont en...
Qui sont le long des zones fertiles,
du moins dans presque toutes les régions où les gouvernements locaux ont pris conscience par l'établissement d'un programme de lutte nationale contre la cécité, du moins dans tous ces pays, avec plus ou moins de chances, plus ou moins de résultats. Nous couvrons pratiquement toute cette zone en distribuant à des millions de gens ce comprimé. Et l'OPC distribue jusqu'à présent à 3 ou 4 millions de personnes, d'individus, par l'intermédiaire d'un réseau comportant 11 à 13 000 distributeurs bénévoles et avec une pénétration de 80% de la population et d'une façon, je dirais, tout à fait admirable, sans aucune perte de comprimés, sans trafic, sans rien du tout, et avec des résultats tout à fait extraordinaires.
Alors voilà, est-ce que ça veut dire que l'oncocercose, on pourrait en venir à bout ?
On peut, il faut au moins 15 ans, ça dépend tout de même. non pas des laboratoires, qui ont décidé de le donner ad vitam aeternam, le comprimé. Mais ça dépend aussi du relais qu'on vont prendre les pays que l'on aide. Nous avons démontré à l'OPC qu'on empêche un sujet de devenir aveugle en lui donnant un comprimé qui nous coûte 8 centimes d'euros par patient.
Par an ?
Par an. Bon, alors bien sûr, quand vous cumulez par 4 millions d'individus, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors là, le Lions Club International, la Fondation nous aide, nous avons le ministère des Affaires étrangères nous aide. Notre rôle est, grâce à mes deux associés qui sont le docteur Negrel et le docteur Secon, qui sont des hommes de terrain, le premier ayant travaillé aux États-Unis, sur le terrain, à l'OMS. Nous sommes capables de faire des expertises extrêmement précises, c'est-à-dire une étude épidémiologique d'une région, puis ensuite le projet pour former les gens, couvrir la région, et lorsque nous demandons de l'argent, nous avons de l'argent pour ces missions. J'en ai d'ailleurs beaucoup plus pour les missions que pour mes pauvres acteurs. J'ai beaucoup plus de mal pour le fonctionnement que pour mes missions. Et vous me disiez, est-ce que ça va, non pas éradiquer, mais supprimer la maladie ? Certes, c'est déjà fait, à condition que ça dure.
Voilà, c'est tout est dans la durée.
Tout est dans la durée. Est-ce qu'il est raisonnable d'imaginer que les ONG qui sont les nôtres, la Christophen Blended Mission, plein de missions de tout genre, étrangères, anglophones, germanophones, etc. Est-ce qu'il est bien logique d'imaginer qu'elles vont, pendant 3 siècles, faire ça ? C'est là que se situe le problème. Car s'il n'y a pas une reprise, et je crois, j'ai ouvert cette année, au mois de décembre, une réunion de toutes les ONG qui s'occupent de la lutte contre le Kessercose, c'était à Paris, là, avec 10 ministres de ces pays, et nous avons bien souligné que c'était un transfert de compétences et que nous n'allons pas toujours renouveler ce même programme indéfiniment, qu'il faut que les pays africains, même avec une certaine aide,
mais qu'ils arrivent après
oui,
eux-mêmes.
On a bien dit qu'on allait assurer toujours cette longue transmission, mais il faut que les pays africains
prennent le relais.
Ce que nous avons d'original et que nous avons créé à l'OPC, nous avons un réseau de 11 à 13 000 distributeurs. Chaque village, un chef de village est donc désigné quelqu'un qui est responsable de la distribution. Si vous voyez les listes de malades, c'est absolument merveilleux, de précision, etc. Avec aussi élimination des femmes enceintes, etc. Mais c'est très bien fait. Chaque homme, on lui fait une formation que l'on renouvelle, qu'on entretient. Et on lui apprend en plus à reconnaître une ophtalmie du nouveau-né, c'est-à-dire une infection à l'accouchement.
Oui, donc vous formez en fait
On lui apprend à reconnaître une cataracte, on lui apprend à reconnaître un trachome. À partir de cela, on fait les soins primaires. Au travers de ce réseau, nous atteignons d'autres maladies et on crée une espèce, je dirais, d'épidémiologie villageoise. Que nous contrôlons, bien sûr, après par un médecin africain.
Oui, bien sûr, mais il y a déjà une première étape.
Une première étape, nous avons établi des relais, c'est-à-dire qu'il y a un petit centre primaire d'examen, puis un centre hospitalier pour les opérations, etc. Et vous voyez qu'au travers de l'oncocercose, qui est l'une de nos œuvres majeures, nous instituons un accès aux soins primaires nécessaires pour éviter les grandes causes, je dirais, de cécité dans ces pays.
On marque une courte pause, professeur Yves Pouliquen, on se retrouve tout de suite après.
Bien sûr.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Suite de notre éclairage en compagnie du professeur Yves Pouliquen, professeur donc ophtalmologue, et membre de l'Académie. On peut dire les deux. Alors je serai donc ophtalmologue et membre aussi de l'Académie française. Je ne l'ai pas précisé dès le départ, mais c'est pourquoi vous êtes là aussi aujourd'hui sein du studio de Canal Académie. Donc nous parlions de l'oncocercose, qui est une des grandes causes pour lesquelles l'OPC essaie de combattre cette maladie en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres maladies pour lesquelles vous essayez de trouver des moyens d'éradiquer ?
L'oncocercose, c'est une toute petite partie. C'est une maladie qui engendre la cécité à coup sûr. Donc, on l'a prise comme un exemple très important, mais elle ne couvre pas un nombre considérable de personnes.
C'est une maladie qui touche uniquement des personnes dans les pays en voie de développement.
Voilà. C'est dans les pays tropicaux, parce que c'est une parasitose tropicale, et qui agite en Amérique centrale, au Yémen, et en Afrique subsaharienne. Lorsque vous évoquez les autres maladies...
Comme le trachome dont vous avez
parlé. Oui, mais il y en a une que vous connaissez bien, et qui est encore beaucoup plus présente, c'est la cataracte. La cataracte, c'est la principale cause de cécité dans le monde. Je crois que ça fait 50% des causes de cécité. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la cataracte, dans les pays en voie de développement, dans les pays ensoleillés, se développe plus rapidement. Je rappelle que c'est l'opacification du cristallin.
Hein, bon.
Et ça se manifeste par une baisse d'acuité visuelle. Et puis, la pupille devient blanche parce que le cristallin est comme un petit morceau de craie. Donc, il y a des gens qui, à 50 ans, sont totalement aveugles. Ils sont dispersés dans des pays très pauvres, en bout de piste. Et il est déjà difficile de les identifier. Donc, il est difficile de les identifier. Il est difficile d'aller vers eux. Or, la cataracte, c'est pas comme l'oncocercose où on donne un comprimé et on suppose qu'on a fait
voilà,
son
travail. On donne pas un comprimé tous les
Là,
ans.
Là, il faut avoir un homme qui sache opérer la cataracte. Il faut avoir un lieu pour opérer cette cataracte. Il faut avoir une méthode. Il faut avoir des instruments. Il faut avoir tout un ensemble de matériel à notre disposition. C'est pas du tout, simple.
Et il faut en plus,
que le malade accepte d'être opéré. Or, nous sommes dans des pays de tradition, avec la médecine traditionnelle, qui use pour opérer la cataracte d'un moyen qui est antique, qui a 4000 ou 5000 ans, qui est l'abaissement du cristallin. C'est-à-dire qu'ils se font volontiers traiter par des guérisseurs, qui enfoncent dans l'œil une aiguille, transfixe le cristallin, l'ébranle et l'enfonce dans le corps vitré.
C'est une manière très radicale de procéder.
C'est une manière très radicale qui a fait ses preuves depuis l'Antiquité, mais qui s'est sortie de beaucoup de complications. Parce que le cristallin tombant dans le vitré crée à la suite beaucoup de complications de tous ordres. Mais il faut bien dire que les tradis praticiens, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, utilisent des antibiotiques, utilisent la cortisone, utilisent les drogues qu'ils achètent dans les pharmacies et ont amélioré un peu leur performance. Et ils se font payer, en général en nature, avec un poulet ou autre chose. Mais ça coûte plus cher que ce que nous offrons
nous. Qu'est-ce que vous offrez-vous ?
Mais ce que nous offrons nous est beaucoup plus durable, mais peut-être un petit peu plus compliqué, parce que c'est une vraie opération, alors qu'enfoncer une aiguille dans l'œil.
Alors justement, donc l'OPC, vous venez avec votre matériel, alors, vous installez des infrastructures, comment ça se passe ?
Alors notre rôle, c'est d'établir dans les pays des réseaux d'hôpitaux avec l'instrumentation nécessaire. Alors, nous arrivons à offrir le matériel, nous arrivons à offrir tout ce qui concerne la réalisation de la cataracte, les instruments, les boîtes qui peuvent resservir, mais les stérilisateurs. Nous offrons les cristallins artificiels, c'est-à-dire que là aussi, nous avons une responsabilité. Jusqu'à il y a quelques années, on opérait la cataracte sans mettre d'implant. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus cet obstacle blanc dans la pupille, mais ils voyaient flou. Mais alors, on pouvait leur mettre une lunette de plus 10, c'est-à-dire des grosses lunettes. Mais trouver une grosse lunette en Afrique, et quand vous l'avez cassée, vous n'en retrouvez plus. Donc, c'était des gens qui retrouvaient des capacités de marche, même de travail, mais grossiers, avec une acuité visuelle très pauvre. Et on s'est dit que nous n'avions pas le droit de créer une ségrégation de qualité. Donc, maintenant, nous faisons systématiquement des implantations, c'est-à-dire que le résultat fonctionnel est aussi bon que le résultat fonctionnel de l'un de nos concitoyens.
Ici.
Alors, pas tout à fait avec les mêmes méthodes, peut-être pas tout à fait avec la même sécurité, mais tout de même dans un immense progrès. Alors, ce que nous offrons, c'est le matériel, c'est l'installation hospitalière, c'est tout ce que l'on appelle le jetable, c'est toute la consommation, le consommable, et nous avons encore le devoir de former les gens. Alors, il y a des écoles africaines, les facultés, avec lesquelles j'ai renoué, ce qui n'était pas évident autrefois, avec les facultés de Dakar, d'Abidjan, Bamako. Nous avons déjà des relations. Nous avons aussi une école de formation qui est l'Institut d'ophtalmologie tropicale de Bamako, qui a été française, puis Union européenne, qui maintenant est passée comme établissement public malien, où nous sommes progressivement retirés avec l'espérance que les choses dureront aussi bien, mais nous y formons deux catégories de personnel, des ophtalmologistes vrais, qui eux, bien entendu, sont opérateurs de cataracte, et nous formons des infirmiers ophtalmologistes opérateurs de cataracte.
Des infirmiers sont aussi
opérateurs. Et on arrive à former des gens très doués qui ne font que ça. Et puis, ils ont quelques connaissances d'ophtalmologie, mais au point de vue chirurgie, ils font le trachome, dont nous parlerons tout à l'heure, et la cataracte. Et ils arrivent très bien à opérer la cataracte avec mise en place d'un implant.
Ce sont des soins qui coûtent un peu plus d'argent que l'oncocercose.
Alors, vous savez qu'en France, je pense qu'on peut difficilement opérer de cataracte pour moins de, je dirais, 1200 ou 1500 euros. Là-bas, nous opérons une cataracte, je vais le dire en francs, parce que la dernière estimation que je l'ai en francs, c'est 250 à 300 francs. La qualité chirurgicale, tout de même, n'est peut-être pas aussi rigoureuse. Mais n'empêche que c'est un progrès considérable, parce que ces gens que nous opérons de cataracte, ils ont un implant, ils peuvent retravailler.
Et ils ont une vie sociale.
Exactement, ils reprennent. Alors qu'une cataracte avant, un père de famille avec 3 enfants ou 6 enfants, ne travaillant plus, la famille était vraiment laissée à l'abandon.
D'ailleurs, il y a tout un aspect économique
voilà.
qui est très important.
Et nous avons, grâce encore à la Fondation internationale du Lons Club, nous avons fait un réseau et nous avons les premiers résultats. Et le réseau dont je vous parlais tout à l'heure, de soins primaires, d'accès à la cataracte, fait qu'on a augmenté considérablement le nombre d'opérés de cataracte. Et c'est une des formules. Par exemple, au Tchad, grâce au don d'un de mes amis qui nous a offert un 4x4, nous avons au Tchad une unité mobile qui se rend dans des lieux que nous avons équipés et qui fait régulièrement les cataractes.
Vous faites la tournée des
cataractes. Oui, on fait la tournée. Alors, ce n'est pas tout à fait facile, parce que vous imaginez que l'Afrique n'est pas un pays toujours calme.
Oui.
Le Tchad ne l'est pas vraiment.
Effectivement.
Et de temps en temps, ce n'est pas facile. Ce sont des gens qui prennent des risques. Ce sont mes élèves qui travaillent là-bas, que j'ai formés à l'Hôtel Dieu. Et ce sont des gens très courageux, parce qu'ils prennent constamment des risques. Il y a des rivalités, il y a des vols, il y a des piratages. Bon, ce n'est pas facile.
Quelles seraient les motivations alors profondes de vos élèves, ou même de vous à travers tout ça, parce qu'effectivement il y a une prise de risque,
oui,
il y a des découragements aussi
si
parfois.
Vous voulez, vous avez raison de poser la question. Non, je crois que quels que soient les risques, il faut faire les choses. Je crois qu'il faut il faut montrer l'exemple. Il y a deux sortes d'activités dans une association comme l'OPC. L'OPC est quand même la seule grosse, et encore qu'elle est toute petite, mais c'est la seule grosse association qui ait cette responsabilité de transmettre le savoir au nom de la France, en quelque sorte. Hein. Je lis ça à une action aussi auprès des universitaires africains qui viennent me retrouver à la Société française d'ophtalmologie tous les ans, qui sont de plus en plus nombreux. C'est une véritable, je dirais, promotion de notre culture, de notre savoir, etc. Ça, c'est formidable. Je crois qu'il y a deux objectifs majeurs, soigner, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas entrer dans le système de soigner en permanence en étant nous-mêmes responsables de cela toujours. Il faut qu'il y ait transfert. Et nous agissons pour faire ce transfert, en particulier dans la formation. L'OPC a organisé en 2004, en décembre à Rabat, un cours de santé publique destiné à tous les responsables africains de nos 14 pays, plus Haïti, plus Madagascar. Un cours de 5 semaines, de 5 jours par semaine, de 8 heures par jour, tout payé, voyage, séjour, ils n'ont aucun sou à débourser. Ils ont même un bakchich pour pouvoir visiter. Nous avons fait pour une 30aine de médecins. Nous allons le répéter l'année prochaine, en 2007. Cette formation, c'est aussi un goût du transfert. C'est-à-dire pour qu'ils sachent traiter leurs propres événements. Et nous avons là des professeurs qui sont mes amis, mais aussi des Belges, des Suisses. C'est un ensemble. Alors ça coûte cher, des cours comme ça. Ça coûte 300 000 dollars. Hein. Il faut les trouver.
Ah oui,
donc
après,
je fais la quête. Alors, je fais la quête.
Vous avez plusieurs casquettes. Hein.
C'est très difficile, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. On se pose une vraie réflexion. Et je crois que le lieu ici est de dire cette réflexion. Et c'est l'une de mes préoccupations actuelles.
Oui.
C'est de savoir quel est le plus rentable de l'action humanitaire. C'est de faire ce que l'on fait lorsque rien n'existe. Mais il faut que les États sachent que ça ne coûte pas cher ce que l'on fait. Hein? Avec un peu d'économie, de sens de l'économie de ces États, on arrive à faire une cagnotte annualisée pour que ça soit répétitif. L'oncocercose, si nous ne faisons rien, en 5 ans, tout va être fait. La maladie va revenir exactement comme auparavant.
Voilà, avec encore 20% d'aveugles
dans
le village.
Donc, il faut bien. Alors ça, il ne faut pas le faire indéfiniment. Et je crois que c'est un message qui commence à être entendu. Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement écouté. Le deuxième, c'est la formation. Je pense que c'est essentiel. Cette formation, pour qu'elle soit utile à un pays qui crée les emplois pour les gens formés. Une de mes consoeurs récemment élu de l'Académie, me disait l'autre jour qu'en étant à New York et prenant des taxis, comme elle parle français, quoique n'étant pas française, on lui dit « Ah, vous êtes français ?» Et ce sont soit des Haïtiens, soit des gens du Maghreb qui ont le bac plus 5 et qui sont chauffeurs de taxi. Alors, est-ce qu'il faut former des gens pour qu'ils soient chauffeurs de taxi à New York ? Je dis non. Donc, sans une, je dirais, un accord conventionnel avec les pays dans lesquels on travaille, il n'y a pas de salut. Il faut vraiment que ce soit dit. Il faut que si nous formons quelqu'un, il ait son emploi dans son pays.
Voilà. Donc pour le moment, vous pensez que ce que vous pouvez faire a un bon écho dans les pays dans lesquels vous travaillez ?
Oui, nous ne faisons rien dans un pays sans annoncer la couleur. C'est-à-dire que nous avons un rapport avec le ministre, nous lui proposons un projet parfaitement chiffré, nous gérons totalement le projet.
Aucune fuite, nous gérons le projet,
c'est une condition sine qua non. Par contre, tout ce que nous donnons, c'est pour leur bien-être. Tout est destiné, nous n'avons aucun prélèvement pour nous, nous sommes absolument, tout ce qu'il y a sera un bienfait pour leur pays. Mais il faut aussi qu'il y ait l'écho, c'est-à-dire de pérenniser l'action de protection de la cécité, de prévention de cécité. Il faut que ça entre dans les règles. Il faut que ce soit entériné par le ministre, il faut qu'il y ait un budget qui se dessine, il faut qu'il y ait un prolongement à ce que l'on fait.
Pour que ça fasse partie intégrante d'un
des
plan...
Des mœurs du pays. Et à ce moment-là, on peut progresser, on peut faire des choses. Sinon, c'est vrai que c'est une grande interrogation. C'est une grande interrogation. Mais là, nous avons une grande réflexion, je crois. Comment être le plus utile de façon, je dirais, durable ?
Tout s'inscrit dans la durée.
Exactement.
Quelles seraient vos idées pour les années à venir ? Est-ce que vous auriez un autre projet ? C'est de pérenniser ce que vous faites ?
Oui.
Qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous aimeriez faire en plus ? Peut-être une autre maladie à traiter ? Ou d'autres pays vers lesquels vous aimeriez aller et qui pour le moment restent fermés ?
Non, non, nous avons 14 pays africains déjà. C'est beaucoup. Ce n'est pas tout. Un des beaux projets que nous avons, c'est les 3 Comores qui ne sont pas françaises. Nous avons déjà budgétisé une action qui va être tout de même assez remarquable puisqu'il y a un ophtalmologiste pour les 3 Comores. Oui. Nous finançons actuellement, grâce d'ailleurs à un groupement d'opticiens français, de mes amis, vous savez, c'est souvent par des amis, mais j'aime bien, et ça dépasse les amis parce que j'aurais plus d'argent, mes amis qui sont très très dévoués, vraiment des gens très braves, un groupe d'opticiens de l'Île-de-France nous a dotés de façon à ce que ce projet leur a plu. On fait un projet, on le propose. Là, je viens d'avoir un projet marocain qui était magnifique, que j'avais proposé à un mécène, charmant d'ailleurs, qui m'aide beaucoup, mais ce projet lui est apparu un peu trop gros. Bon, ben on le met sous le coude, on verra plus tard s'il y a des jours meilleurs, etc. Donc c'est comme ça que nous procédons. Alors pour les Comores, nous avons l'argent et nous formons actuellement 2 ophtalmologistes, des infirmiers. Nous créons dans chacune des îles un centre de référence avec possibilité de soigner, de diagnostiquer et d'opérer. Et nous avons parallèlement, puisque ce sont des opticiens qui nous financent, l'enseignement de l'optique, de façon à ce que les enfants à l'école soient tous examinés et qu'on leur donne la correction. Car un formiope à l'école, eh bien, il ne voit rien. Au bout de 3 ans, il est marginal, il finira analphabète. Et nous allons corriger systématiquement tous les enfants de ces 3 îles qui ne sont pas françaises et qui sont dans un état de pauvreté assez impressionnant.
Donc là, c'est un projet qui va se réaliser.
Ah oui, dans 3 ans, ce sera fait. C'est et en plus, clairement. On leur a offert un 4x4. On leur offre, si vous voulez, un modèle. Alors là, l'éducation nationale, parce qu'il y a une éducation nationale, a créé les postes de professeurs. Le ministère de la Santé a créé les budgets. Vous voyez, c'est une construction très pragmatique. Et ça, je suis d'accord pour faire des choses comme ça. Voilà le genre de situation qui me plaît. Alors, il y a plein, avec le Congo, où j'ai aussi un mécène, qui m'aime pour le Congo, Brazzaville, ex-français. Et bien là, nous avons aussi un projet très précis et qui est en train de s'élaborer. Mais il reste le Burkina Faso, il reste la République centrafricaine. Il y a plein de pays qui nous sollicitent. Alors, en fonction du désir de ces pays d'être aidés, nous traitons avec eux selon une conversation très franche.
Donc en fait, ce sont les pays qui viennent maintenant vous
souvent,
voir.
Souvent, beaucoup, beaucoup. Surtout pour la formation et l'enseignement. Mmh. Alors, je dirais que nous sommes un petit peu contre...
Le fait qu'on vous sollicite ?
Non, c'est pas ça. Non, parce qu'on ne peut pas se disperser. Et je suis contre les petites actions. Alors, je vais vous choquer. Il y a beaucoup de gens très bons, des petits groupes d'ophtalmologistes qui disent on va faire des cataractes, etc. Nous ne sommes pas du tout pour cette politique-là. C'est ce qu'on appelle les safaris cataractes. Peut-être un peu dur, comme... mais parce que ce sont des gens de bonne volonté. Ils arrivent, ils examinent, ils opèrent très bien, ils s'en vont. Et c'est fini.
Oui, il n'y a rien derrière.
Non. Cette action ponctuelle, qui n'est pas durable, qui souvent laisse chez les Africains une curieuse impression de différence colossale entre ça tombe du ciel, les anges viennent nous opérer, et en plus, quand ils s'en vont, souvent il y a des complications qui restent sur le carreau et que personne ne traite, parce qu'il n'y a pas de référence.
Oui.
Alors là, nous essayons, par un effort pédagogique, de démontrer qu'il ne faut pas faire ça. Il faut, je crois, avoir des règles conventionnelles avec les pays, de façon à faire de vrais projets, de les estimer, de les budgétiser, de se les faire offrir par quelqu'un. Mais si je vous disais que l'OPC pourrait être 3 fois, 4 fois, 5 fois plus grande si j'avais de l'argent pour payer des hommes.
Oui, après ça,
parce que je n'ai pas d'argent de fonctionnement.
Est-ce que vous pourriez travailler en relation avec d'autres organisations pour la société
civile? Bien sûr, nous sommes en France avec la Valentin, oui. Là, nous sommes en pourparlers avec la Christopher Blind Mission allemande pour la formation, justement. Et nous sommes ailleurs en rapport avec une ONG suisse, ailleurs encore avec une ONG britannique. Nous sommes en pleine coopération. Nous échangeons nos connaissances, nos statistiques,
oui, oui.
Et puis on est dans le cadre de l'OMS. Ah oui, on est dans le cadre aussi de l'IAPB, c'est-à-dire l'International Association for Prevention of Blindness. Nous sommes membres aussi de l'OMS, nous sommes même parmi l'assez petit nombre d'ONG tutélisées par l'OMS. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'OMS. Voilà. Mais écoutez, si pour l'OPC, moi ça fait déjà 8 ans, 9 ans, j'ai toujours dans ma vie fixé à 10 ans ma coopération à une entreprise. Donc je pense que je veux transmettre, parce que j'estime qu'au bout de 10 ans, la marque d'un président finit par ne plus avoir d'originalité. Il y a plein de projets. Moi, j'aimerais que l'OPC bénéficie des moyens de se développer, ce que le ministère des Affaires étrangères reconnaît d'ailleurs. Nous sommes, je crois, une ONG très appréciée et nous avons un bon écho. J'ai pour moi des gens, des volontaires, qui sont des analogues, si cela se peut, de Négrel, de Sécon, etc. Des gens qui sont là pour venir chez moi, multiplier par 2, par 3, par 4, et nous aurions l'argent pour le faire. C'est-à-dire que l'argent des missions, nous l'obtenons toujours.
Oui.
Par contre, l'argent de fonction, il me le faut. Or, j'ai des donateurs, mais je suis une petite ONG. Et en plus, j'ai le bénéfice d'un héritage personnel qui a été donné à cette fondation et des amis qui me donnent aussi, des mécènes qui me donnent chaque année. Mais on ne peut pas fonctionner seulement sur des choses comme ça. Il faudrait que nous ayons tout de même une base solide. Alors, l'une des actions que je fais actuellement, c'est de me rapprocher d'une grande fondation française,
oui.
Peut-être un peu trop tôt d'en parler ici, de la nommer en tout cas, une sorte de tutelle qui me permettrait, parce que c'est une fondation aisée, qui me permettrait d'avoir avec elle un certain nombre de propos,
oui,
en disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se lance dans telle chose ?» À ce moment-là, l'OPC, c'est ce que j'essaierai de faire avant de m'en aller. Je resterai tout de même un administrateur, mais je voudrais que quelqu'un d'autre prenne la barre avec son originalité, ses nouvelles, etc. Et puis sa jeunesse, parce que moi, je vieillis aussi.
Est-ce que, pour terminer, vous pourriez nous parler de Vision 2020, le droit à la vue ?
Oui. Alors, nous avons participé à l'élaboration de ce rêve, je n'ose pas dire de cette utopie, qui voudrait qu'en 2020, il n'y ait plus d'aveugles sur la Terre. En tout cas, que tout ce que nous pouvions prévenir l'ait été. Ce ne le sera pas, hélas. Mais c'est une mobilisation internationale qui a pour vertu de mettre la vision à l'ordre du jour à l'OMS.
Donc ça concerne qui ? Ça concerne des ophtalmologues ?
Oui, ça concerne essentiellement toutes les ONG, l'IAPB, l'Agence de prévention de la cécité, et aussi les grands groupements d'ophtalmologie, le Consilium international d'ophtalmologie et bien d'autres groupes aussi. Ça a surtout l'avantage d'unir les efforts de beaucoup pour démontrer à l'OMS qu'il ne faut pas abandonner la vision.
C'est pas un thème secondaire.
Voilà, parce que l'œil est très faiblement soutenu. Il y a tellement d'autres grandes causes qui impliquent la mort. La cécité par rapport à la mort, je ne sais pas d'ailleurs si c'est très juste de dire que la cécité c'est moins grave que la mort, je n'en sais rien, sûrement pas. On vit aveugle, je connais des aveugles qui sont très heureux, mais tout de même c'est un grand sujet. Et on n'est pas sûr qu'il soit reconduit à long terme. Donc je pense que cette décision, cette annonce de 2020 est aussi...
Vision 2020.
À 2020, oui. Est tout de même, je dirais, un symbole pour qu'on ne se désintéresse pas de ce gros problème.
Merci professeur Yves Pouliquen de nous avoir accordé une heure, de nous avoir éclairé sur l'OPC, l'Organisation pour la Prévention de la Cécité, et de nous avoir parlé également de l'oncocercose et de toutes ces maladies qui peuvent entraîner la cécité. Merci, au revoir et à bientôt.